Émile Bergerat, Conte féerique et rustique, Azeline. Une légende de notre vieille et candide Bretagne, où l'on s'en transmet de si belle. Elle a été défigurée par les folkloristes au gré des provinces diverses sur lesquelles ils opèrent. Je n'ignore pas, certes, que chaque race a le droit d'assimiler à son caractère ethnique les contes merveilleux nés du rêve dont l'humanité est légitime héritière. Peau d'âne est d'origine hindoue, mais Azeline est celtique, et son thème se prête mal aux paraphrases de l'imagination méridionale, par exemple. Il faut l'encadrement de cette terre de granit recouverte de chênes battue par une mer méchante, et où les cadavres se mêlent encore aux dolmens dans une confusion de croyances propice au naturel. Si la légende saint-briacoise repose sur un roman vécu, le dit roman n'a pu l'être qu'en Bretagne. Et voici comment je l'ai eu dans mon village d'une excellente sorcière traditionnaliste qui l'an dernier vivait encore et qu'on appelait la mère, loi, parce qu'elle entraînait une comme un chien à ses jupes. Il paraît que cette toile avait une nuit sauvé des voleurs, comme celle du Capitole sauvait Rome, ni plus ni moins, de nos aïeux les Gaulois. Mon bon monsieur, ce n'est pas parce que je l'ai connue, non, mais quoique vieille, je suis trop jeune, mais la mère de mon père l'a vue, comme je vous vois. Elle s'appelait Azeline, et elle était du bourg de Saint-Briac, où les filles sont les plus jolies et ont les plus belles coiffes. C'était au temps jadis où il y avait encore des rois régnants et où tout le monde allait le dimanche à la messe. Les parents d'Azeline avaient du bien, ce qui n'est pas pour nuire, et comme à leur mort elle était seule à en hériter, il ne lui manquait pas de danseurs aux assemblées. Mais elle n'en avait que pour son Jean Brice, qui, nécessité de vivre, était marin et faisait la pêche à l'entre-neuve. Ce Jean Brice lui avait retenu son cœur. Il devait se marier quasiment à la Saint-Michel, dès que son bateau serait de retour avec le chargement, sans retard. Pendant son absence, elle se brodait du fin linge et lui marquait des mouchoirs à leurs chiffres entremêlés. J.A. Ceci pour bien vous le dire. Mais voilà qu'un soir, son aiguille cassa sur l'ouvrage. La première fois, ça ne compte pas. À la deuxième, vaut mieux cesser de coudre, parce qu'à la troisième, c'est le signe de mort. Elle le savait, mais elle continua, elle l'aimait trop, c'était pas possible. La troisième aiguille rompit. Sur nos côtes, voyez-vous, on ne sait pas comment les naufrages sont connus avant qu'on en ait la nouvelle. C'est dans les voies de la mer, un certain cri particulier auquel les marins ne se trompent pas. Il vient par les mouettes qui se passent le malheur. Le père d'Azeline l'entendit de sa fenêtre, la mère aussi, et sachant bien qu'elle mourrait, si on ne la préparait pas un petit coup à son chagrin, ils l'emmenèrent à Jouvent-sur-Rance où il y avait des noces pour les fiançailles d'une cousine. À peine venait-il d'y partir que les Anglais rapportaient à Saint-Jacques de la mer le corps du pauvre jeune homme, trouvé sur le rocher, afin qu'il fût enterré dans la terre de son baptême. La cérémonie eut lieu le jour même, en présence du recteur de la paroisse, tandis qu'Azeline dansait, comme une innocente, à Jouvent-sur-Rance. Elle seule ignorait peut-être son infortune, annoncée par les mouettes. Une cousine mauvaise, parce qu'elle était carabossue et naine, lui avait bien dit, par allusion, il y en a qui dansent sur les trous des fosses. Mais elle n'avait pas compris. Pouvait-elle comprendre? Elle l'aimait tant, son beau Jean Brice. Et elle était entrée dans la ronde. Ce fut alors qu'on vint l'avertir que quelqu'un la demandait à la porte de la métairie, sur la route. Elle y alla, c'était Jean Brice. Il tenait par la bride un cheval gris de fer qui, malgré le soleil, était enveloppé de brouillard. Ses naseaux en fumaient comme des cheminées et ses sabots en tiraient comme du chanvre qu'on dévide. « Jean, mon bien-aimé, Mais il repoussa son doux embrassement. Tu danses trop, fit-il. Et consternée, elle lui disait: Es-tu jaloux? Doutes-tu de moi? Je te suis fidèle, je t'attendais. Alors viens, fit la réponse. Et la soulevant entre ses bras, il l'assit sur le cheval gris de fer et ils partirent. Il ne demanda même pas où on allait, elle était si heureuse, oh, si heureuse! Comment faisait-il déjà nuit en plein midi? Ce n'est pas le plus étrange, mais il est certain que le ciel était comme une ardoise. Il serait impossible d'expliquer autrement pourquoi il y filait tant d'étoiles. Le cheval gris de fer les rattrapait toutes à la course, et il arrivait avant elle à l'horizon. As-tu peur d'aller si vite? Lui demanda-t-il. Je suis avec toi, je n'ai peur de rien. Et nouée au cou de son fiancé, elle s'étonnait seulement de sa pâleur. Tu es livide comme un mort, mon tendre ami. Et il approuvait d'un geste de ta tête. Au-dessus d'eux, d'arbre en arbre, une corneille appelait ses petits, enlevée par un émouchet. Jean la lui montra en silence. Non, lui jeta-t-elle à l'oreille, ce n'est pas un corbeau, c'est une hirondelle de mer. Nous approchons de chez nous. J'entends le déchirement de toile que font les vagues sur nos grèves. Ah, voici le clocher de Saint-Briac et les bassins bordés de bois pleins de bruyères où sont tous nos souvenirs. Tiens, la maison paternelle, regarde! Il frissonna. J'ai froid, dit-il. Vaseline ôta sa capuce et la lui attacha sur les épaules. Le cheval filait, filait toujours, sa filasse de nuages aux sabots. Saint-Briac passa, puis dans la plaine, des villages endormis qu'elle nommait au passage. Les chiens hurlaient comme ils font aux fantômes. Et tout à coup, au-dessus du vieux castel de Guildo, qui croule depuis 8 siècles pierre à pierre dans l'Arguenon, Jean se plaignit que le vent du nord lui traversa le crâne. Ne le sens-tu pas siffler derrière moi, Zeline? Elle prit alors l'un des mouchoirs blancs qu'elle lui marquait, J.A., de leurs chiffres entrelacés, et elle en banda le front du cavalier. Merci, murmura-t-il. Et comme ils arrivaient à Saint-Jacques-de-la-Mer, le cheval gris de fer dessina une courbe dans l'air, comme s'il glissait du pont de l'arc-en-ciel, et il vint s'abattre sur la place, devant le porche de l'église. De tous ceux qui étaient là, les femmes seules et les enfants virent distinctement Jean-Brice sur le cheval et le reconnurent. Mais les hommes, eux, virent Azeline. Ils l'aidèrent même à mettre pied à terre. Dans l'église, le glas de l'enterrement ne tintait plus, mais il bruissait encore. Le bedeau mouchait les cierges. L'encens s'évaporait à peine, et sur un banc, une vieille sanglotait à la Vierge Mère. Car Jean était le plus beau de ses 6 enfants, le plus fort et le plus tendre. La jeune fille courut à elle. Mais qui donc est mort? Va voir au cimetière. Elle y alla. On comblait le trou de la fosse et le recteur la bénissait. Monsieur le curé, qui est-ce? Mon enfant, un bon chrétien, un brave marin, un breton, qu'on a recueilli sur la côte anglaise. Le bateau est perdu, capitaine, équipage et mousse. Le bon Dieu nous a rendu Jean-Brice, enfin, je veux dire son cadavre. À ce nom, Azeline, sans un cri, tomba de son long sur la fosse, et elle aussi, elle trépassa. Toute la commune décida que de pareils amants ne pouvaient pas être désunis, et que ce serait injuste s'ils ne partageaient pas non seulement la même tombe, mais le même cercueil. On le rouvrit donc, et savez-vous ce que l'on y vit? Ma grand-mère paternelle y était, et jamais elle n'a menti en 80 ans d'existence. Eh bien, le corps de Jean-Brice, longtemps ballotté par la mer, avait repris toute sa consistance. Il avait la capuce d'asile aux épaules, le mouchoir blanc marqué J.A. autour du front, et miracle d'amour, plus admirable encore, il portait au doigt l'anneau nuptial qu'elle lui avait donné à son départ pour la pêche à Terre-Neuve, et que les Anglais n'avaient pas retrouvé sur son cadavre. Voilà comment on s'aimait chez nous, mon bon monsieur. Au temps où il y avait des rois régnants, quand tout le monde allait le dimanche à la messe. Et ceux qui disent que l'histoire s'est passée ailleurs qu'en Bretagne sont des menteurs qui veulent nous faire du tort dans l'esprit du monde. Sur cette protestation, la vieille sorcière siffla son noix et s'en fut désherber ses pommes de terre.